Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Startup Mafia. Je suis Kamel Zeroual, investisseur dans la tech et entrepreneur depuis toujours. Startup Mafia, c'est un format long. Une saison est consacrée à une scale-up et un épisode est consacré à un talent. L'objectif, comprendre l'envers du décor avec un prisme talent, car c'est eux qui contribuent, avec les fondateurs, à faire grandir le business de manière si rapide. Excellente écoute à tous. C'est parti Justin, on va passer une heure ensemble à parler de process commerciaux pour les grands comptes, parce que c'est un enjeu important dans une boîte qui scale, puisque Brigade a plein de typologies de clients. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous donner un peu les grandes lignes de qui tu es et de tes fonctions chez Brigade?
Avec plaisir. Donc je m'appelle Justin, j'ai bientôt 36 ans. Et je suis directeur grand compte chez Brigade. J'ai rejoint l'aventure Brigade en mars 2022, donc il y a un petit peu plus d'un an. Ça fait 18 mois que je suis là. Mon job, c'est de m'occuper d'aller chercher des nouveaux grands comptes qui vont utiliser l'application Brigade pour leurs besoins de ressources de courte et moyenne durée, essentiellement sur deux marchés pour l'instant, la restauration collective et le médico-social. Voilà, même si on a des projets, des réflexions en cours, mais donc à fond sur ces deux marchés. Et avant Brigade, je me suis occupé déjà des grands comptes dans une entreprise SaaS qui s'appelle InnoVorder, qui accompagne ces grands comptes dans leur transformation digitale des points de vente, dans la restauration. Et donc je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles Brigade est venue me chercher et m'a proposé cette aventure, parce que j'avais déjà accompli cette transformation, ce process complexe d'onboarder des grands comptes dans un environnement à peu près similaire.
On va rentrer dans le détail de ton job chez Brigade, mais aussi de tes différentes expériences. Peut-être juste avant, pour comprendre comment tu es arrivé finalement dans ces fonctions commerciales, toi, c'est quoi ton background, lycée, post-bac, qu'est-ce que tu fais comme études?
J'ai fait la première énorme décision de ma vie, c'est de faire un bac ES contre vents et marées, parce que si on repart du début, hein, mais voilà, j'étais plutôt bon élève, mes parents voulaient me pousser en S, j'ai choisi de faire bac ES en disant en fait je pense que je réussirai mieux plus tard parce que je suis pas très scientifique, et donc cet énorme choix m'a permis d'avoir une prépa voie éco que j'ai bien réussi. J'ai terminé, j'ai été diplômé d'HEC en 2011. Comme à peu près une grande partie des étudiants de ma génération qui savaient exactement ce qu'ils voulaient faire dans la vie, j'ai de faire du conseil. plus sérieusement, j'avais pas de d'ancrage très fort dans un secteur particulier ou dans un métier particulier, je me suis lancé dans l'aventure du conseil. J'ai travaillé un peu plus de 5 ans chez Bearing Point. Je trouvais que c'était vraiment une expérience géniale parce que je trouve que pour un premier pas sur le marché du travail, c'est hyper intéressant. Tu touches à beaucoup de projets. On t'apprend aussi des méthodes de travail, à structurer ta pensée, ton approche, à commencer déjà à parler à des grands comptes, parce que mes clients étaient essentiellement des entreprises du CAC 40. Et en fait, arrivé au grade de manager, je me suis dit que j'avais fait un peu le tour de la question. Je crois que, comme beaucoup, hein, je pense que tu as dû en croiser d'ailleurs dans les épisodes que tu as pu tourner de Startup Mafia, mais je crois qu'il y a une vraie bascule dans le conseil vers le grade de manager. C'est-à-dire que soit tu te dis, OK, je suis on track et je finis associé. Moi, en l'occurrence, j'ai pensé que j'avais déjà appris ce que j'avais à apprendre et je me sentais, j'avais pas de nouvelles choses qui me tentaient.
Et avant, tu avais touché à d'autres choses que le conseil là, pendant HEC?
Franchement, mes deux stages, un stage dans un cabinet d'études de marché, donc quand même assez orienté conseil, qui s'appelait Galileo Business Consulting, et un stage chez Bearing Point à Londres. Et c'est de là que s'est fait la bascule après. Donc et je me suis pas mal investi auprès de la junior entreprise d'HEC pour financer ma vie étudiante. Donc j'étais assez orienté quand même sur cette dimension études conseil.
Et juste pour comprendre la bascule plutôt commerciale, même si tu fais une école de commerce. Finalement, faire de la vente, c'est encore une autre dimension du commerce. Enfin, c'est le nerf de la guerre, mais c'est pas forcément évident d'avoir des profils qui ont ce parcours-là et qui vont se dire, je vais faire des ventes parce que finalement, en fait, c'est hyper data-driven, comprendre les objections des clients, c'est hyper intéressant et d'aller encore plus loin. Comment tu arrives à dire, je vais commencer à faire du sales post finalement conseil?
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
En fait, je me suis pas dit tiens, je vais faire des ventes. Okay. En fait, j'avais un, je me suis retrouvé à passer une problématique à la fin de ma carrière dans le conseil. C'était plutôt une problématique de sens, c'est-à-dire que j'étais en quête de sens. J'avais envie de donner un sens à ce que je faisais. Et autant les premières années de conseil ont été super riches d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue progression et voilà, intellectuellement j'étais hyper stimulé. Et puis en fait, arrive un moment où j'avais l'impression d'être dans une routine. Adresser un peu toujours le même type de problématique, et je pense une des choses, moi, qui en tout cas ne répondait pas à mes attentes dans le conseil, c'est que je voyais que des morceaux de projet. Je faisais le cadrage d'une offre, je faisais le déploiement d'un projet digital, voilà. Et donc du coup je me sentais pas impliqué, j'avais pas l'impression de servir une cause un peu plus grande que moi, et voilà, ça m'a amené à me poser pas mal de questions. L'autre point que je trouvais difficile dans le conseil, c'est qu'en fait personne comprenait ce que je faisais. J'avais un peu je dis souvent à mes copains, quand j'essayais d'expliquer à ma grand-mère ce que je faisais, elle comprenait pas, et j'avais envie de trouver à la fois un métier dont les gens sachent clairement ce que c'est, et j'avais envie de trouver surtout un projet dans lequel je m'investis. Et j'ai eu l'occasion à ce moment-là de croiser la route d'InnovOrder. En fait, il se trouve que c'était les deux fondateurs d'InnovOrder sont des copains de copains, donc on se connaissait déjà à l'époque. Il y en a un des deux d'ailleurs qui avait fait un stage chez Bearing Point, donc on s'était pas mal rapprochés, même si on n'était pas dans la même équipe, on avait passé pas mal de temps ensemble. Et c'est plutôt la vente qui est venue à moi par le biais d'InnovOrder, parce que j'ai échangé avec un des deux fondateurs qui m'a dit écoute, voilà, nous on existe depuis 2 ans, on commence à se développer, on fait une première levée de fonds là, et on cherche des profils un peu plus expérimentés qui sont capables de vendre de la transformation digitale à des grands comptes. Et là, ça a fait tilt dans ma tête, je me dis mais en fait, c'est ce que j'ai appris à faire depuis 5 ans chez Bearing Point. Le secteur de la restauration, c'est un secteur qui me passionne. À un moment, je me suis posé même la question j'avais commencé à monter un BP pour reprendre des franchises de restauration, donc j'étais vraiment à fond là-dedans. Et quand l'aventure InnovOrder s'est présentée, je me dis en fait, c'est exactement ça. Et finalement, tu vois, c'est par le biais de cette approche conseil, c'est-à-dire finalement, chez Bearing Point, dans mon équipe transformation digitale, on vendait des programmes de transformation digitale, on accompagnait des grands comptes dans la transformation digitale de leurs process, de leurs solutions, de leurs offres. Et en fait, InnovOrder, c'est une solution SaaS 360 pour la restauration, pour refaire tous des parcours clients in-store et out-store. Et du coup, il y a une espèce de match. Je me dis, en fait, c'est exactement ça. Et donc, je vais aller voir des gens à qui j'ai déjà parlé, qui sont des DSI ou des directeurs digitaux ou des directeurs commerciaux de grands comptes. Et je vais aller leur pitcher ça. C'est comme ça que ça s'est fait.
Et t'arrives à quel moment de la boîte? Il y a combien de personnes?
On est... c'est vraiment le saut dans l'inconnu, quoi. Pour le coup, c'est le saut dans l'inconnu. Je viens de Bearing Point, qui a 2 étages à la Défense. On est pas loin de 1000 consultants. Et je rejoins InnovOrder. On est dans un 2 pièces dans le 16e. Je crois que je suis 12e salarié quand j'arrive. Mais je baisse mon salaire de 25%. Enfin, vraiment, je me dis, c'est ça y est, quoi. Je prends un pari, j'y vais. Et je regrette absolument pas le pari. Et c'est hyper enthousiasmant, parce que j'arrive du coup à un moment où tout est à construire. C'est-à-dire que il y avait déjà des premiers points de vente utilisateurs, quelques chaînes qui nous suivaient, mais pas de vrais grands comptes. Et il fallait à la fois structurer l'approche commerciale, l'offre, aller convaincre des premiers grands groupes de nous faire confiance. Et voilà, c'était ce défi-là pendant 5 ans.
Et à ce moment-là, t'es au fait de ce qui se passe dans l'écosystème startup, c'est quoi ton raisonnement? Parce que finalement, passer d'un statut de manager à un statut de doer d'une petite boîte, ça peut être terrifiant. Mais qu'est-ce que tu dis à ce moment-là? Tu te dis, j'ai rien à perdre, les mecs sont super forts, donc je vais apprendre des trucs. Il y a le secteur qui m'intéressait, et puis tu connectais les dots dans les différents métiers que tu avais pu faire. Mais est-ce que tu as un peu plus de recul sur est-ce que tu as un agenda perso, quoi? Est-ce que tu as un plan B de dire, de toute façon, je vais peut-être monter une boîte? C'est quoi ton idée?
Ouais, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête à ce moment-là, parce que je me sens arrivé vraiment à la croisée des chemins, quoi. C'est-à-dire que je sens que j'ai fait mon temps dans le métier du conseil, que passer de l'étape de manager à associé, elle me branche pas. Ouais. Et donc, qu'il faut assez vite que je donne une nouvelle impulsion à ma carrière, parce que je pense que ces métiers-là de consultant, ils sont super, mais t'es assez vite, assez bien payé. Et donc, plus tu attardes, plus le changement est difficile.
Ouais.
Et tu vois, j'ai pris un pari financier qui s'est avéré largement payant, hein, mais j'ai pris un pari en quittant. Donc après,
est-ce que tu sais, est-ce que tu es aussi intéressé par les stock options, enfin,
ouais,
il y avait cette dimension incentive qui peut y avoir dans les startups et qui n'existe pas non.
Ouais. En fait, non, clairement, c'est-à-dire que évidemment, je change complètement de mode de rémunération aussi. Il y a une partie BSPCE, il y a pour le coup un vrai variable quand t'es sales, t'as pour le coup des variables qui sont beaucoup plus conséquentes quand tu peux être consultant. Non, je pense que pour revenir à ta question, mon point principal, c'est j'ai été consultant de 2011 à 2016 et j'ai vécu un moment où les sujets qui étaient très à la mode, c'était l'open innovation et c'est comment quand je suis un grand groupe, quand je suis la SNCF, quand je suis le Crédit Agricole, la BNP, comment je crée autour de moi un écosystème de start-up et comment j'outsource une partie de mon innovation auprès des start-up. Et donc du coup, j'ai été amené à conduire pas mal de projets, à faire partie d'équipes projets, notamment avec Bearing Point, on avait monté le Crédit Agricole Store qui était le portail d'application du Crédit Agricole avec une tout un écosystème de start-up qui faisait partie du projet. On a travaillé avec le Crédit Agricole pour créer les Crédit Agricole Village qui sont les villages de l'innovation. Et donc j'ai été et donc du coup j'ai été familiarisé avec cet environnement et si tu veux je voyais toute la journée dans le cadre de mes projets des entrepreneurs qui avaient monté des super projets, des salariés de start-up et en fait tu te rends compte que c'est pas il se passe des choses et surtout je vois des gens passionnés et je me dis en fait ils ont un truc de plus, je suis jaloux d'eux pour une chose, c'est la passion. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie de me sentir passionné et de travailler pour un projet qui me dépasse, quoi, une cause plus grande que moi et en fait rejoindre, je trouve, une startup, surtout à un stade vraiment early, quoi. Je te dis, on est 10 et même si j'aime pas, avec le temps, c'est peut-être pas le bon terme, mais j'ai l'impression de rejoindre une famille, quoi.
Ouais.
Et donc, tu sens que t'as un rôle à jouer, que tu vas mesurer vraiment ce que t'apportes. Et quand je suis parti, ça a été super dur parce que je suis resté très attaché à eux et on pourra revenir sur les raisons de mon départ, mais voilà, je suis super fier quand je me suis retrouvé, je me dis, j'ai une chance inouïe de faire partie de ce projet-là et d'arriver, on est 10, on fait quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires et là, c'est plusieurs millions, on est une centaine dans Paris, on a tous les plus grands comptes de restauration qui travaillent avec nous, donc ouais, il y a une vraie fierté. Quelque part, j'ai trouvé ce que j'étais venu chercher, un projet concret, un projet qui me dépasse, un projet où je peux vraiment mesurer l'impact qu'on a sur la société. Je veux dire, c'est très concret, InnoVendor. Tu fais le tour des restaurants là dans le quartier, tu vois des caisses InnoVendor, tu vois des bornes InnoVendor. Donc c'est voilà, d'un coup, tu passes d'un stade où t'es à la défense à un stade où tu marches dans la rue et tu vois tes produits, quoi.
Et la chaîne de valeur d'InnoVendor, c'était quoi donc j'ai bien compris que c'était accompagner les clients dans la restauration à se digitaliser.
Ouais.
Mais il y avait des solutions hardware, software, jusqu'où ça allait.
Ouais. Alors pour le coup, le software est 100% développé chez InnoVendor. C'est le cœur de métier. Hein. C'est ce qu'on appelle un OMS, un order management system. Et donc c'est toutes les solutions de commande dans la restauration, donc
ça,
la caisse.
Tiller system, tout ça.
Voilà, en gros, Tiller faisait, je crois, alors Tiller faisait que de l'encaissement, InnoVendor faisait l'encaissement, mais tout le parcours digital, mais voilà, c'est en tout cas le même marché et ça, c'est tout ça, c'est l'écosystème, c'est l'écosystème de food tech avec les solutions digitales en point de vente. Je pense que le vrai point différenciant d'InnoVendor, c'était la solution tout en un, c'est-à-dire que t'es pas obligé d'aller prendre la caisse chez un, la borne chez l'autre, la feed chez le troisième, t'as tout. Et effectivement, fabricant logiciel et par contre, on s'adapte à différents types de hardware qui sont déployés dans les points de vente. C'est-à-dire que tu vois, t'es un grand groupe, t'es Elior par exemple, tu signes un contrat avec InnoVendor et tu peux déployer, InnoVendor te gère tout le déploiement de tes caisses, de tes click and collect, de tes bornes dans tes points de vente, quoi.
Ok, très clair. Et donc, si on parle un peu des fonctions que t'as pu avoir, donc vous êtes une dizaine, comment la boîte évolue en termes de staffing, notamment sur la partie commerciale, et quelle responsabilité tu prends sur les 24 premiers mois, ça ressemble à quoi?
Je me suis occupé de la partie, en fait j'ai pris en main les grands comptes, une quinzaine de grands comptes de restauration qu'il fallait ouvrir.
Le premier que t'as signé,
ou ouais, le tout premier, je me rappelle, alors il y en a deux. Il y en a mon tout premier contrat signé, c'est du Jardin, qui est une chaîne de salade bar du groupe Bio C'est Bon. Qui est à l'époque, en fait je suis super fier parce que c'est ma première signature.
Bah oui.
Donc je la garde, celle-là je m'en rappelle. Et après non, surtout ce qui marque le début de mon aventure chez Innovorder, c'est le groupe Elior, parce que ben en fait on signe des premiers déploiements sur des cantines scolaires, avec notamment le click and collect. Elior a un gros problème à l'époque sur l'enseignement, c'est que les étudiants restent pas forcément dans l'établissement, ils vont aux alentours parce que ben ils peuvent commander directement depuis le téléphone et tu vas faire du click. Et donc Elior crée sa propre solution de click and collect et utilise Innovorder pour le faire.
Okay.
Et donc
en marque grise,
en marque blanche.
Okay.
En marque blanche, ils ont leur propre marque et on okay. Voilà. Et donc d'ailleurs pour l'anecdote, c'est assez amusant parce que c'est vrai que moi quand je pars de Bearing Point, je crois que c'est je suis un peu hypermnésique, je me rappelle bien, mais je crois que c'est le 16 décembre 2016 et je prends une photo de ma tour à la Défense et je l'envoie à mes potes en disant c'est mon dernier jour à la Défense, j'y retournerai plus jamais quoi. Et j'arrive chez Innovorder donc le premier, je débute le 1er ou le 2 janvier quoi. Et super fier, je me disais c'est la Startup Nation, c'est fini la Défense, c'est fini le costard cravate. Et j'arrive et 10 jours après, Jérôme, mon boss, me dit écoute, on va dans les bureaux d'Elior à la Défense. Quoi. Je me dis mais ça y est quoi, ça me poursuit, la boucle ne se déboucle pas.
C'est sûr qu'il y a pas mal de clients là-bas.
Ouais ouais, mais ouais non, effectivement voilà. Donc sur les 24, en fait je me suis voilà occupé, j'étais plutôt contributeur indépendant, c'est-à-dire que j'ai fait un peu de management par la suite, mais au démarrage j'étais vraiment là pour essayer de construire une approche commerciale avec un discours de preuve sur les grands comptes, une approche un peu différente à la fois dans la manière dont on va présenter l'offre, d'aller chercher de nouvelles personnes à qui on va l'adresser. Et voilà, ça a été ça l'essentiel de mon travail les deux premières années, de vraiment essayer de faire pénétrer Innovorder dans ces grands comptes, de négocier les premiers contrats cadres,
évangéliser les comptes, avoir ouais. Des premiers logos
exactement,
qui sont très contents. Et comment tu te structures? Est-ce que tu commences à avoir à ce moment-là, tu commences à réfléchir playbook, process? Comment t'arrives à te rendre ne plus être indispensable dans le process et faire qu'il y ait des gens qui arrivent à vendre à tes côtés et qui soient encore plus performants que toi?
Ouais, en fait, essentiellement par une forme de coaching, c'est-à-dire que on gère l'équipe commerciale à deux à un moment. En fait, la directrice marketing gère la partie plutôt managériale, KPI, tu vois, suivi, pilotage day-to-day des sales. Et moi, j'interviens à l'époque en coaching pour les aider sur le closing. Et du coup, ça me permet, effectivement, je suis plus impliqué dans ni tous les rendez-vous, ni tous les process commerciaux. En revanche, on me fait confiance pour les former, notamment sur le discours de preuve, le discours de... On essaye, en tout cas, moi j'essaye à l'époque de construire un discours qui est vraiment basé sur le ROI. C'est-à-dire que une solution, par exemple, de click and collect ou de borne de commande, en fait, c'est pas un centre de coût pour ton point de vente parce que ça te coûte peut-être 300 € par mois. Mais en fait, avec à la fois tu vas capter plus de clients parce que ça va beaucoup plus vite de commander sur une borne que de faire la queue en caisse. En plus, les parcours clients sur les bornes font que généralement tu fais plus 15 à plus 20% d'upsell. Et donc en fait, l'un dans l'autre, tu arrives à démontrer à ton client, ouais, bah, mieux qu'amortir. C'est-à-dire en fait, sans ta borne, tu vas faire 100 tickets à midi. Avec une borne, tu vas faire 115 tickets. Et là, tu parles parce qu'en fait, le gars, il dit, ok, 5, je vais faire 15 tickets de plus. Mon panier moyen, nanana, ok. En fait, et donc du coup assez vite, il se rend compte que les 200 €, il les a amortis en même pas quelques heures. C'est un peu trompeur, mais peut-être 2-3 jours, c'est fait. Et donc après, c'est du chiffre d'affaires additionnel que tu vas chercher. Et donc on construit beaucoup notre discours à cette époque-là autour de ça. Et du coup, je forme les sales sur ce type de discours, ce type de négociation aussi qu'on peut avoir avec des directions des achats.
Très clair. Et est-ce que t'as un rôle autour de la gouvernance, au board,
j'ai été membre du COMEX pendant les trois premières années, je crois, effectivement, en fait, mon rôle, c'était directeur du développement. Mon job, c'était d'aller chercher des nouveaux marchés. Donc, j'avais ouvert celui de la restauration collective, notamment, et de m'occuper des grands comptes, de gérer les grands appels d'offres, etc. Ouais. Donc, il y avait un directeur commercial, un directeur du développement. Et donc, ouais, j'ai été membre du COMEX. Et puis, après, le nouvelle levée de fonds, équipe resserrée. Et puis, j'ai changé de rôle au sein de Novador. Donc, j'étais plus dans ce rôle-là. Mais après, j'ai continué de m'impliquer, parce que j'étais très attaché à la boîte. Donc, j'essayais de faire vivre aussi les valeurs de la boîte. C'est un peu comme Brigade. C'est une entreprise qui a Innovador, qui avait des valeurs, assez concrètes et que, voilà, qui étaient celles des fondateurs au démarrage et que j'essayais de continuer à faire vivre en tant qu'un peu dernier des Mohicans parce que j'étais le dernier rescapé des dix premiers salariés.
D'accord. Et donc, à la fin, tu restes combien de temps chez eux?
Un peu plus de 5 ans.
Okay.
Un peu plus de cinq ans.
Et ça ressemble à quoi au bout de 5 ans? Ton rôle, ton scope, le nombre de clients, la taille du business.
Ouais, mais c'est en fait déjà quand je pars, quasiment tous le top 10 ou le top 15 de la restauration collective qui nous utilisent, des plus grosses chaînes de restauration commerciale. On commence à avoir des premiers dossiers à l'étranger. Moi, le dernier contrat que j'ai signé en partant, c'est pour une entreprise italienne qui fait de la restauration dans les trains. Donc voilà, il y avait des dossiers sympas. Et non, surtout, je pense que c'est aujourd'hui en Europe probablement le meilleur OMS qu'on peut trouver. Donc non, il y a un très très beau parcours. On a multiplié par 10 les personnes, par 15 le chiffre d'affaires. Donc non, une très belle aventure et ouais une aventure à la fois moi humaine parce que je me suis énormément investi dedans et que on m'a beaucoup donné aussi et puis j'ai eu l'impression voilà vraiment de comment dire. J'ai vraiment trouvé ce que j'étais venu chercher, quoi, d'avoir construit, participé à la construction d'un projet et laisser une trace quelque part parce que c'est vrai que la plupart des macarons qu'on avait quand je suis parti, c'est des groupes pour lesquels soit j'avais ouvert ou pour lesquels j'avais contribué à l'ouverture, donc une vraie fierté là-dessus.
Super. Et d'ailleurs, la boîte continue à croître. Elle s'est fait racheter. Elle fait des acquisitions. Comment ça marche?
Ils vont très bien. Je les vois régulièrement en cours. Non, ça continue de se développer. Il y a pas mal de beaux projets commerciaux en cours. Donc, non, tout va bien. Là, ils sont pas très loin d'ici, en plus. Donc, je les recroise régulièrement dans le quartier.
Et donc, tu disais qu'il y avait des raisons, plus structurantes qui fait que, alors, Brigade est venue te chercher de ce que je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres raisons, au-delà de 5 ans, c'est un vrai cycle?
Ouais.
Dans une startup, c'est assez usant, finalement, de passer beaucoup de temps. La partie commerciale est vraiment intense. Qu'est-ce qui fait que tu décides de partir?
En fait, il y a deux moments un peu charnières. Il y a un premier moment au bout de 3 ans et demi où j'ai l'impression d'avoir fait un cycle sur la partie sales. Et Jérôme, le fondateur d'Innovador, me propose à l'époque de monter un pôle customer success. C'était la mode à l'époque. Toutes les startups avaient leur pôle CSM. On va mettre le client au centre. Il va être représenté par la direction du customer success. Et donc voilà, je me dis super. Je prends ça, je vais être au cœur de la boîte, je vais être le pivot entre le sales, les opérations, le support. Et en fait, patatras. C'est-à-dire que je pense que j'étais pas la bonne personne pour le faire. Avec le recul, tu vois, je pense que il fallait assez vite construire une grande équipe, manager pas mal de gens, mettre en place des process sur du CSM, des process d'onboarding, des choses très liées à du CRM, à des outils internes qu'on avait chez Innovador. Deuxième chose, c'était un moment aussi où on commençait à avoir énormément de clients et on a eu un moment où en fait on avait beaucoup de clients et assez peu de personnes pour s'en occuper. Donc forcément on avait pas mal de défis aussi à relever pour accélérer les déploiements, s'assurer de maintenir la qualité, donc quelques clients aussi à gérer sur ces problématiques là et en fait je me suis retrouvé dans une situation où j'étais pas la bonne personne pour le faire, énormément de boulot, pas mal de pression des clients et en fait au bout de 6 mois on s'est regardé avec Jérôme, on dit en fait on va arrêter les frais, je vais aller faire autre chose. Et c'est à ce moment-là, voilà, il y a eu une première question, je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais faire, en fait?
Tu t'es rendu compte qu'à ce moment-là, tu étais plus un chasseur?
Ouais, je me suis rendu compte que vraiment, ma passion, c'était d'être sur la réalisation d'un business. le fait de convaincre un client, de réaliser les premiers pilotes avec lui, mais par contre passer derrière, tu vois, sur des logiques plutôt de déploiement, d'accompagnement, de support. En fait, si tu veux, le côté relationnel me plaisait toujours. Par contre, le côté opération vraiment pure me branchait moins. Et je me suis aussi rendu compte à ce moment-là que, à la fois que le management n'était pas une fin en soi, et qu'en plus c'était peut-être pas quelque chose, que c'était pas un axe que j'avais forcément envie de développer moi dans ma carrière. Et donc ouais, je me suis posé pas mal de questions à ce moment-là. J'étais embêté parce que d'un côté j'étais hyper attaché à la boîte, j'avais l'impression de pas avoir fini ce que j'avais à apprendre. Et il se trouve qu'à ce moment-là, on recrute une personne assez expérimentée sur la partie commerciale, qui prend un rôle de CRO, qui chapeaute en tout cas les opérations, un peu le support, toute la partie sales, qui est quelqu'un qui vient du monde de la restauration en plus, qui a 30 ou 40 ans d'expérience dans la restauration, un gros réseau. Et en fait, je travaille avec lui pendant 1 an et demi, tu vois, de jusqu'à mon départ, 1 an et demi, 2 ans. Et en fait, j'apprends énormément, et je retrouve un nouveau cycle où je me dis en fait c'est génial parce que je suis en train d'apprendre des nouvelles choses. Il m'apprend à travailler différemment les grands comptes, il m'apprend une nouvelle approche qui est basée sur le réseau, sur les connexions que tu peux faire, et il m'aide aussi à prendre beaucoup de recul, parce qu'en fait je pense que j'étais quelqu'un d'assez empressé, et tu vois, toujours un peu tout feu tout flamme, aller à fond. Et en fait, la vente, c'est des cycles longs. Faut, voilà, construire ses relations, nouer des contacts au sein d'un compte, essayer de le mapper et de le comprendre. Et donc, il m'apprend beaucoup. Et en fait, je passe, je choisis de me réorienter sur la partie sales. Je prends en gros les 3 plus gros comptes qu'on a à l'époque. Rôle de directeur grand compte. On est 2 directeurs grand compte rattachés à ce nouveau directeur commercial. Et pour le coup, voilà, on se partage le marché de la restauration collective. Et franchement, non seulement ça se passe super bien, on cartonne, mais en plus de ça, moi, j'apprends énormément,
sur la vente complexe, quoi.
Sur la vente complexe, et je redécouvre le plaisir de la vente, et je découvre aussi des nouvelles méthodes de travail. Je me dis, en fait, j'ai envie de faire ça, quoi.
Et comment elle s'appelle, cette personne?
Il s'appelle Xavier.
Xavier.
Il s'appelle Xavier, et ouais, donc là il est, bah, tu vois, il a je l'ai revu, il a changé d'aventure lui aussi, mais voilà, il a tu vois la soixantaine, donc il est arrivé chez Innovorder, il doit avoir 55 ans je crois. C'est un vrai pari à l'époque, hein, parce que on parlait toujours, tu vois, une des difficultés dans les startups, c'est que t'as que des jeunes partout dans tous les sens, ça manque d'expérience. Et d'un coup on a pris quelqu'un qui avait, pour le coup, qui a fait, il aimait bien le tir en rigolant, j'ai fait exploser la moyenne d'âge. Mais en fait, je trouve que je me suis rendu compte que, en fait, dans le business, dans les fonctions commerciales, à un moment, rien ne remplace les cheveux blancs, ou moi, l'absence de cheveux, tu vois, l'expérience. Et voilà, j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Enfin voilà, j'ai eu l'impression de faire presque un nouveau cycle en sales. Et voilà. Et donc en fait, pour faire le lien, je présuppose que ta question d'après va être: mais pourquoi tu pars?
Ouais.
et en fait, je pense que il y a 2 facteurs. La première, c'est que bah, j'arrive à un cycle de 5 ans, j'ai énormément appris, j'arrive à une phase où je sens que je suis de nouveau sur un palier. Je pense aussi que j'arrive vraiment, c'est 2021-2022, tu vois, je pense que la restauration, en tout cas en France, est hyper mature sur le digital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vas, là, tu te balades dans le sentier, dans le quartier Grand Boulevard, il y a énormément de chaînes, tu fais le tour des chaînes de restauration, tout le monde est hyper équipé.
Ouais.
Tous les gens sont très au fait de ces nouveaux parcours. D'ailleurs, maintenant, les points de vente ont complètement changé. On construit plus du tout, les archis qui bossent sur les points de vente les construisent de manière complètement différente, travaillent sur des flux avec notamment des murs de borne à l'entrée. Enfin, tu revois ta prod. Donc, le secteur est hyper mature, et je sens qu'il y a plus d'énormes innovations qui vont arriver. C'est-à-dire que nous, la dernière grosse innovation qu'on sort chez Innovorder, c'est ce qu'on appelle des scan plateaux. C'est en fait un appareil qui prend en photo ton plateau et qui peut l'analyser avec de l'intelligence artificielle pour, notamment pour les cantines d'entreprise, pour bah, faire en fait exploser la fluidité. C'est-à-dire que avant, tu avais ton plateau, tu faisais la queue en caisse. Là, tu poses ton plateau sur le scan, tu passes ton badge. Ça analyse, et voilà. Et une fois qu'on a passé ça, je me dis, bon, la techno d'après, souvent c'est des choses qui viennent du retail. On voit que le retail n'est pas encore mature sur l'IA. Amazon Go, ça commence, mais ça a du mal à se mettre en place. Il y a des initiatives comme ça autour de la data, mais je vois rien d'énorme arriver. Donc je me dis bon, je suis encore parti pour vendre la même chose pendant pendant encore un petit peu de temps. Et à ce moment-là, j'ai la chance de recroiser Nicolas. Nicolas Ferrari. Il se trouve que Nicolas, c'était le capitaine de mon équipe de foot en école de commerce.
D'accord.
C'est le capitaine de l'équipe 2, capitaine Courage, qui nous a emmené, je crois, en demi-finale de championnat de foot. Ouais, on a fait des on était bon. L'équipe 1, c'était vraiment les stars, et l'équipe 2, il y avait beaucoup de volonté plus que de technique. Et donc, en fait,
il y avait du cœur.
Il y avait beaucoup de cœur, ouais. Et Nicolas me recontacte, me parle de Brigade, et moi, tout de suite, je suis à la fois la manière dont il m'en parle, dont il présente, je me dis, ah, j'ai l'impression de retrouver, j'ai l'impression de me revoir il y a 5 ans quand on me pitch InnoVorder. Quoi. Je me dis, ah ouais, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et c'est amusant parce que, mais sur les derniers mois chez InnoVorder, quand je suis sur le terrain, on parle beaucoup de problématiques autour de ressources RH. Tu vois, on manque de gens, on a besoin de solutions, on a besoin de flexibilité. Et je me dis, en fait, c'est génial parce que Brigade, c'est l'opportunité de rester dans un secteur qui me passionne, qui est celui de la restauration, de m'ouvrir intellectuellement à des nouveaux secteurs, puisqu'il y a le médico-social aussi, et de me re-challenger intellectuellement pour apprendre à vendre quelque chose de nouveau. Et je passe d'ailleurs d'un monde où on doit vendre des solutions digitales à un monde où, en fait, je vends de l'usage, quoi. Et donc Nicolas me propose ça, et moi je suis hyper séduit par le projet, par l'impact qu'il peut avoir, et puis voilà, les choses se font, et je rejoins la voiture. On a déjeuné ensemble avec Nicolas en juillet 2022. Il m'a parlé du projet. Moi, bon, voilà, on a pris l'été chacun de notre côté pour réfléchir, et puis on s'est reparlé en septembre. Mais assez vite, ça s'est enclenché. J'ai rencontré Fabien,
oui.
Voilà, qui va parler dans un autre épisode. J'ai rencontré Fabien à l'époque, qui est le directeur commercial. Je rencontre Julia, je rencontre Florent, je rencontre Marc, Jean. Je rencontre un peu tout le monde. C'est toujours pareil, hein, les entretiens, c'est faut à la fois eux qu'ils aient envie de m'inviter à les rejoindre et que je fasse partie de cette aventure, et aussi me séduire pour que j'ai envie. Et je crois qu'il y a un super match. Moi, tout de suite, je me dis, en fait, il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui est en train de se passer, et ils ont vu quelque chose chez Brigade que je pense beaucoup de gens n'ont pas encore vu. Donc il y a un potentiel énorme, et puis je pense qu'ils ont été aussi intéressés par mon expérience. Et donc voilà, le match se fait, et j'arrive en mars 2022 pour m'occuper de la chasse grand compte chez Brigade.
Alors ça ressemble à quoi les 100 premiers jours chez Brigade avec cette casquette, qui a un enjeu énorme, parce que finalement, à l'époque, il y a toute la partie finalement long tail de la restauration qui fonctionne bien avec pas mal d'améliorations. Comment tu travailles avec Nicolas? Est-ce que tu bosses avec Jérôme Stewie aussi côté Selena? Enfin, je suis curieux de savoir à quoi ça ressemble les 3 premiers mois.
C'est 3 premiers mois à 100 à l'heure, parce que il faut aussi apprendre, moi, de mon côté. Donc j'essaie assez vite de m'onboarder, de comprendre. La première chose que je fais, d'ailleurs je m'en rappelle, c'est de me dire je vais faire mon deck commercial, parce qu'en fait c'est la bonne manière pour apprendre à parler de Brigade, parce qu'effectivement ton deck commercial, c'est le contexte, les enjeux, la proposition de valeur, et chez qui on l'a fait et pourquoi ça marche, quoi. Et donc je me mets à fond là-dedans la première semaine pour avoir mon pitch, et de là, en fait, assez vite, deux choses. La première, c'est regarder ce qui existe déjà. Donc je me rappelle, je prends les classements des 20 premières chaînes de restauration commerciale, les 20 plus grands groupes de restoco, d'hôtellerie, etc. Hop, je regarde dans le CRM où est-ce qu'on en est, pour essayer de mapper l'existant. Je me rends compte que il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, déjà des belles portes ouvertes, on a déjà plusieurs groupes utilisateurs, et après je m'attelle à aller en chercher d'autres. Donc mon job, c'est deux choses. Un, sur ceux qui nous utilisent, voir comment on peut densifier nos relations, et surtout aller à un niveau de relation C-level pour à la fois s'inscrire dans la stratégie de ces groupes-là, et s'assurer qu'on voilà, on construit des relations dans la durée, qu'on peut être référencé notamment dans ces groupes-là, et puis aller en chercher des nouveaux. Et c'est vrai que là, je suis aussi aidé par le premier réseau que j'ai pu construire dans la restauration, puisque ça me permet d'ouvrir quelques portes au démarrage et de commencer à...
Il faut rapidement des wins aussi pour ouais. Montrer que t'es capable, enfin, de délivrer toi-même en tant que sales. Et ça ressemble à quoi le premier logo?
Le premier groupe, le premier groupe, c'est un groupe qui s'appelle MRS. Qui est une société de restauration collective, pour le coup, chasse directe auprès du directeur général en charge des opérations, LinkedIn, email. On a travaillé après le groupe Bertrand aussi, deuxième gros dossier. Donc non, assez vite, je me mets dans ce bain-là. Puis surtout, j'essaie de me construire un pipe, parce que c'est vrai que les ventes grand compte, ce qui est toujours difficile, c'est ça met du temps, et donc il faut à la fois avoir plusieurs projets en cours, parce que tu sais jamais quand les choses vont avancer, et en même temps pas trop pour pas te perdre. C'est ça toujours la difficulté. Donc je pense que voilà, moi j'aime bien avoir 10-15 dossiers. Ça permet d'être sûr de les faire avancer à leur rythme.
Ce
sur
que t'appelles les 10-15 dossiers, 10-15 prospects.
Ouais, 10-15 prospects.
Quoi, potentiellement d'époque. Tu fais comment ça marche pour pouvoir signer, pour déployer sur un groupe Bertrand? C'est quoi les grosses étapes au-delà de finalement d'avoir mappé les décisionnaires, bien comprendre finalement l'opportunité s'il y a des besoins, si les gens veulent la solution, comment ça fonctionne?
En fait, il y a deux manières d'adresser les grands comptes. Une stratégie top-down, une stratégie bottom-up. Top-down, c'est effectivement plutôt d'aller vers les décisionnaires au démarrage, de trouver une personne qui est sensible au projet, qui a des besoins et qui va être effectivement dans une logique de POC et qui dit on va prendre une vingtaine de points de vente, on se donne 2 mois et puis on va les faire utiliser, puis on fera un retour d'expérience après. Et voilà, l'important, c'est de bien définir avec lui avant c'est quoi les KPI sur lesquels il va nous juger. Est-ce que c'est la qualité des profils, est-ce que c'est la rapidité quand il y a des besoins, est-ce que voilà, mais en tout cas mode POC. Et après, la deuxième manière, c'est plutôt bottom up. C'est en fait, et c'est ce qu'on avait, t'as des points de vente qui s'inscrivent sur Brigade, qui commencent à travailler avec nous, et en fait c'est de se servir de premier groupe utilisateur pour dire ok, bah tiens, on a un case là, on a déjà 15 points de vente qui nous utilisent, hop, on va aller voir le directeur des opérations ou le DRH.
C'est bien, contre un cadre.
Voilà, pour dire, écoutez, regardez, il y en a déjà 15 qui nous utilisent. D'abord, je pense que c'est sain et pour eux et pour nous qu'on se connaisse déjà, parce que à partir du moment où il y a des points de vente qui nous utilisent, c'est important, voilà, qu'il y ait cet échange, qu'ils comprennent qui on est, ce qu'on fait, ce qui marche bien avec les points de vente, et bah, du coup, si ça marche bien, qu'on voit comment on peut le déployer à plus grande échelle, quoi.
Et qu'est-ce qui marche le mieux entre le top-down et le bottom-up?
Franchement, je crois que chaque groupe a un peu sa vérité, à la fois son momentum, sa vérité. Tu peux tomber en top-down sur un directeur des opérations, un ou une DRH qui va être vachement séduit par l'approche, par le fait qu'on Brigade, c'est le futur du travail, et donc qui va prendre le projet à bras le corps et dire en fait j'y crois, je pense que dans 10-15 ans ce sera tout à fait la norme, et donc en fait on va prendre de l'avance et on va y aller à fond. Et puis à l'inverse, tu as des groupes où en fait tu peux parler à des décisionnaires, ils comprennent pas vraiment, ils comprennent pas exactement ta proposition de valeur ou ce qui peut être différent de solutions déjà existantes. Et à ce moment-là, le fait d'avoir déjà des points de vente utilisateurs et des opérationnels qui leur disent non, mais attendez, vous avez pas compris, Brigade, ils sont vraiment en train de nous sauver là. Bah, tout de suite, ça marche et c'est porteur. Donc voilà, il n'y a pas de
règle. D'accord.
Il n'y a pas de vraie règle, quoi.
Et comment, donc je comprends bien finalement pourquoi tu les as rejoints, et surtout en fait, l'institut personnel avec Nicolas fait qu'en fait, il y a un élément de confiance important. Et donc, c'est assez naturel finalement pour toi de rejoindre Brigade, parce que ça valide aussi tes expériences passées. Quand vous décidez d'ouvrir la partie santé, qui est finalement un autre terrain de jeu, qui est pas du tout ton space, là tu repars from scratch. comment tu te réinventes là-dessus et comment tu quels sont les objectifs que tu te donnes, enfin quand explique-moi un peu ce
ça c'est pour le coup c'est la partie vraiment amusante parce que intellectuellement en fait il faut que je comprenne un nouveau marché donc j'ai notamment passé pas mal de temps avec Julia qui s'occupe du marché de la santé qui m'a expliquer aussi comment ça fonctionnait, les codes, les besoins, les types de métiers. J'ai aussi essayé de lire pas mal d'articles, pas mal de choses pour le comprendre, quelques études Xerfi, pour me faire une compréhension. Et après, en fait, je me rends compte que à la fin, les méthodes commerciales, tu vois, les stratégies commerciales sur les grands comptes, c'est un peu toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui fonctionnent. Donc, tu vois, on t'en revient toujours à bien comprendre ton compte, le mapper et essayer de comprendre s'il vaut mieux être en bottom-up, en top-down, un combo des deux, définir ta stratégie pour le compte. Mais à la fin, c'est un peu toujours ça. Il te faut quelques premiers points de vente utilisateurs. Donc, dans mon ancienne vie, c'était des restaurants. Aujourd'hui, c'est des EHPAD, par exemple. Il te faut un sponsor. Il faut que tu arrives à comprendre qui a le qui gère les sujets opérationnels dans ces structures-là, parce que le nerf de la guerre, que ce soit dans la restauration ou dans le sanitaire ou le médico-social, c'est les opérations. Et donc c'est identifier qui est la bonne personne, qui est le ou la directrice d'opération. Donc en fait les clés restent les mêmes, donc c'est ça finalement qui m'a rassuré d'ailleurs, tu vois, c'était un des éléments moi que j'avais, je me dis tiens, est-ce que ce que je sais faire dans la restauration et ce que j'ai appris à faire, d'abord est-ce que je vais être capable de le dupliquer chez Brigade, oui, et est-ce que je vais être capable de le dupliquer sur d'autres marchés, et oui, en fait on se rend compte que les clés sont après les mêmes. Et puis après, de toutes les façons, je veux dire, la vente grand compte, c'est aussi un moment de la patience, de la persévérance. Ça, c'est vrai pour tous les marchés, quoi.
Ok. Et moi, j'avais deux dernières questions là, peut-être pour avancer et finir cet épisode. Ça tourne autour des talents. Mm-hmm. Première. Qui t'a débauché de chez InnoVorder ou de je ne sais quel ou de chez Behring ou de je ne sais où où tu t'es dit tu vois finalement Nicolas il a pensé à toi est-ce que toi finalement t'as essayé de te renforcer ta position avec des gens dont t'avais besoin, ton équipe elle est passée de j'imagine que t'as dû se taffer un peu, comment t'as essayé de trouver des talents dans d'autres mafias pour aider finalement ta mission chez Brigade.
Ouais. Alors moi j'ai pas d'équipe en tant que telle chez Brigade, donc j'ai pas fait de recrutement direct. En revanche, ce dont je me suis rendu compte, je pense que c'est que c'est important d'avoir aussi des gens issus du secteur. Et pour le coup, on a été chercher dans l'équipe grand compte, notamment Saïdé qui est notre VP qui est pour la France et le Royaume-Uni, qui est une ancienne de Compass. Et donc typiquement, voilà, je pense que c'est important d'avoir un bon mix entre des experts du secteur et des experts de la vente. Et une bonne équipe commerciale, moi je l'ai vu chez InnoVorder, je le vois chez Brigade, c'est un mix des deux. Et donc voilà, alors moi j'aide un peu au recrutement, à la fois je fais partie des équipes qui font passer les entretiens et puis j'ai essayé de sourcer aussi quelques candidats, et voilà, moi typiquement j'essaye d'aller regarder quand je dois aller alimenter le pipe de candidats, j'essaye d'aller chercher des gens qui ont déjà opéré dans le secteur pour avoir des gens qui vont en fait s'onboarder assez vite chez Brigade parce que ils connaissent déjà les codes du secteur, ils savent comment ça fonctionne, et donc ils vendaient peut-être quelque chose d'autre avant, ils vendaient du digital, de la fidélité, des produits physiques, mais en tout cas ils connaissent bien ce secteur et ils sont capables de parler d'égal à égal avec un directeur de restaurant, avec un directeur régional, avec un directeur des opérations. Je pense que c'est un des points clés. Donc dans les autres mafias, moi je dirais les mafias de la food tech pour Brigade.
Et peut-être une dernière question sur les gros wins ou à l'inverse les trucs les plus difficiles que tu as pu faire chez Brigade. Tu vois, si t'as deux trois événements en tête. Tu vois d'enjeux, alors on a eu sur cette saison pas mal de personnes qui nous ont parlé de la période de confinement. Toi t'es arrivé un petit peu après, donc c'est ce qui est pas mal aussi. Qu'est-ce que toi t'as vécu qui était un peu critique? Toi t'as vécu la levée de fonds avec l'arrivée de Baldaton. Est-ce que t'as des exemples en tête comme ça de positifs et négatifs, tu vois, tu as senti qu'il y avait des enjeux?
En fait, ce que il y a des difficultés, mais qui sont les difficultés quotidiennes d'un sales. Donc j'ai pas un élément, j'ai pas quelque chose d'insurmontable un défi insurmontable que j'ai eu à relever. Non, je dirais plutôt sur la partie positive. Ce dont je me rends compte, c'est que avec notamment la levée de fonds, le sujet des grands comptes est encore plus clé. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup aussi avec nos fonds. En fait, moi, je crois beaucoup au réseau. Et les premiers comptes que j'ai qu'on a validé quand je suis arrivé chez Brigade, les premiers comptes desquels que j'ai été chercher, c'était beaucoup comme ça, c'est-à-dire que en fait tu mappes le compte et tu vois on a trouvé, enfin je vais pas trahir de trop grands secrets, mais en fait tu trouves toujours des connexions et parfois des connexions un peu improbables. Tu te rends compte que le copain de promo d'un tel est dans tel fonds ou telle société et donc connaît et déjà fournisseur ou est client de, et en fait c'est, voilà, je pense que le c'est beaucoup plus simple en fait d'arriver dans le bureau de quelqu'un quand t'es introduit et présenté que quand t'es en chasse direct. Donc on travaille beaucoup ça et j'ai vu que c'est un défi de plus en plus important, et on est beaucoup aidé par nos fonds d'investissement. Justement, on a mappé nos comptes et on essaye d'avoir ce type d'introduction aussi parce que ça permet d'accélérer le rythme et de trouver des sponsors de plus en plus haut dans les comptes pour pouvoir déployer à plus grande échelle, quoi.
C'est super. Écoute, je te souhaite de signer une quinzaine de grands comptes dans les 24 prochains mois.
Super.
Pour rendre heureux tous ces fonds d'investissement. Et puis, j'ai hâte de voir comment tout ça va évoluer sur ces deux secteurs qui sont clés pour Brigade. Un grand merci en tout cas.
Merci beaucoup.
Un grand merci pour votre écoute. J'espère comme moi que vous avez passé un agréable moment avec ce talent. N'hésitez pas à partager cet épisode de Startup Mafia autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ou une nouvelle saison. Ciao, ciao.